VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriec et Henri Francisco micro.
Au sommaire en ce jeudi 22 janvier, retour au calme hier soir à Kinshasa après 3 jours de manifestations contre la modification de la loi électorale. Mais les tensions persistent.
Je refuse le troisième mandat de Joseph Kabila. Il suffit de dire, je ne veux pas cette loi, on t'arrête. Nous ne voulons pas qu'on amène le chaos qu'on a connu au Burkina Faso.
Épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la progression du virus connaît un net ralentissement.
Conflit au Soudan du Sud, les belligérants ont conclu un accord de réconciliation.
En magazine, nous parlerons des enfants dans le nord du Nigeria qui ont désespérément besoin de protection.
Sans oublier le journal de la CAN, le Congo-Brazzaville en tête du groupe A, le Burkina Faso dernier.
Mais avant, le journal.
Le calme est revenu hier dans la soirée à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Mais la situation reste tendue après 3 jours de manifestations. Une présence policière est maintenue dans le pays. Les communications, notamment l'Internet, les SMS et certaines chaînes de radio et de télévision sont suspendues. Et le nombre de décès s'élève à au moins 48 morts, selon les ONG. Des appels à l'arrêt des massacres sont lancés de partout. Eddy Issango a recueilli la réaction d'un membre de la majorité présidentielle, le secrétaire national du Mouvement pour la solidarité, la démocratie et le développement, Gilbert Okoko-Kalonda.
Ces mêmes Congolais qui nous ont élus hier nous demandent de suivre une autre voie. Alors nous garder parce que nous sommes de la majorité, parce que nous devions voir nos intérêts personnels. C'est là que je dis, nous devions nous arrêter, même au sein de la majorité. Il y a des partis politiques qui doivent s'exprimer aujourd'hui pour dire, retirons cette loi et l'amène le chaos dans le pays. Pourquoi des morts inutiles? Parce qu'on va sauver un individu. Est-ce que la majorité ne sont pas mesure de sortir un monsieur qui peut représenter valablement la majorité présidentielle et gagner les élections? Il n'y a pas des Congolais aussi intelligents, aussi sages, qui peuvent avoir un projet de société dont la population pouvait adhérer derrière ce projet de société. Et nous allons toujours tuer la population parce que nous voulons conserver nos intérêts personnels. Ça, je dis non. Et je ne vais pas être peut apporter l'histoire une charge et un fardeau. Comme me disent demain que ce monsieur a été de la majorité, il n'a pas dénoncé ce qui arrive. C'est carnage. Plus de 48 personnes aujourd'hui tuées inutilement. Pourquoi on doit continuer à soutenir un tel régime? Peu importe. Mais chasser d'un parti politique ne signifie rien par rapport à ces villes, des jeunes gens, étudiants, que j'enseigne à l'université, qui meurent aujourd'hui inutilement. Alors, même si je suis vice-président de la République, je suis premier ministre et que des gens meurent pour de l'argent, je ne peux pas continuer à assumer ces responsabilités. Il suffit tout simplement que tu dises, je refuse le troisième mandat de Joseph Kabila. Il suffit de dire, je ne veux pas cette loi, on t'arrête. Pas seulement que les opposants, et bien sûr, on a arrêté M. Muyambo, même le Fassi Kalum, il est le secrétaire national de la jeunesse du PPRD. Du fait qu'il a dit que cette loi est anticonstitutionnelle, nous ne voulons pas qu'on amène le chaos qu'on a connu au Burkina Faso. Ce monsieur est pourchassé. Il faut soutenir le régime parce qu'il faut soutenir le régime. Nous devons soutenir les principes.
Gilbert Okoko-Kalonda, le secrétaire national du Mouvement pour la solidarité, la démocratie et le développement.
Épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la progression du virus connaît un net ralentissement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. D'après l'Organisation mondiale de la santé, citée par l'AFP, le nombre des nouveaux cas continue de diminuer dans ces 3 pays suffisamment bien équipés pour faire face. Au Libéria, 8 nouveaux cas ont été signalés la semaine dernière contre un pic de 300 nouveaux cas par semaine en août et en septembre 2014. 117 cas ont été signalés la semaine dernière en Sierra Leone contre 184 la semaine précédente et 20 en Guinée contre 45.
République centrafricaine, l'humanitaire française enlevée lundi à Bangui par une milice chrétienne anti-Balaka a été kidnappée par hasard. C'est ce qu'a déclaré son mari dans un entretien au journal français La Croix. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment, a-t-il ajouté.
La force française Licorne a pris fin hier en Côte d'Ivoire. La stabilisation de la situation sécuritaire est arrivée à un niveau tel qu'il n'y a pas nécessité de poursuivre une opération militaire, a expliqué le commandant de cette force à l'AFP. Après 12 années de service, la force Licorne laisse place au FFCI, force française en Côte d'Ivoire. Selon l'armée française, les FFCI serviront de base opérationnelle et de point d'appui logistique des forces repositionnées sur la façade ouest africaine, notamment dans le Sahel avec l'opération Barkhane et en Centrafrique avec la force Sangaris. La force Licorne avait été déployée en septembre 2002 après le début d'une rébellion cherchant à renverser le régime de Laurent Gbagbo.
Conflit au Soudan du Sud. Selon les agences AFP et Reuters, les belligérants sud-soudanais ont conclu hier un accord de réconciliation à Arusha, en Tanzanie. Des précisions avec Anne Albertson.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival et ancien vice-président Riek Machar ont personnellement signé l'accord visant à mettre fin à leur conflit en réconciliant les factions ennemies au sein du parti au pouvoir Adjuba, le mouvement de libération du peuple du Soudan. Une cérémonie présidée par le chef de l'État tanzanien, Jakaya Kikwete, et ses homologues du Kenya et de l'Ouganda, Uhuru Kenyatta et Yoweri Museveni. Depuis plus d'un an, ces derniers étaient engagés dans les efforts de médiation pour arrêter les hostilités qui ont fait plus de 10 000 morts et au moins 1 million de déplacés au Soudan du Sud depuis novembre 2013. Les négociations d'Arusha ont eu lieu en parallèle à celles menées à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD, l'organisation de l'autorité gouvernementale est-africaine, qui sont censées reprendre fin janvier en marge d'un sommet de l'Union africaine. Les factions rivales sud-soudanaises ont déjà signé plusieurs accords de cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés jusqu'à présent. La dernière rencontre face à face, Kiir-Machar, a eu lieu en novembre dernier à Addis Abeba. Les deux leaders y avaient convenu d'une nouvelle trêve qui n'avait tenu que quelques heures.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, nouvelle offensive de grande envergure des forces kurdes contre les militants de l'État islamique près du barrage de Mossoul dans le nord du pays. Une opération appuyée par plusieurs raids aériens de la coalition menée par les États-Unis, dont se félicite le premier ministre irakien Haïder al-Abadi. Par ailleurs, le Japon est engagé dans une course contre la montre pour sauver les deux otages japonais menacés de mort par l'État islamique si Tokyo ne lui paie pas une rançon de 200 millions de dollars avant 5 heures temps universel demain. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a juré de ne pas céder au terrorisme, mais il a aussi exhorté son gouvernement à utiliser tous les moyens diplomatiques pour essayer de sauver les deux captifs. Et c'est dans ce contexte que la coalition contre le groupe État islamique se réunit aujourd'hui à Londres.
Ici à Washington, désaccord profond entre l'administration Obama et les sénateurs des deux partis sur le dossier du nucléaire iranien, notamment l'impact qu'auraient de nouvelles sanctions contre Téhéran. Et puis le président de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner, a invité le premier ministre israélien à venir s'adresser aux deux chambres du Congrès à l'insu de la Maison-Blanche. Michel Joseph.
Monsieur Netanyahou est connu pour son opposition farouche à l'Iran, qu'il accuse de vouloir rayer de la carte Israël. Pour la Maison-Blanche, cette invitation est une atteinte au protocole diplomatique typique, dit l'agence AP. Mais John Boehner souligne que le Congrès ne cherche à provoquer personne. Selon lui, une menace sérieuse existe dans le monde et le président Obama a semblé la minorer lors de son discours de mardi sur l'état de l'Union. Par ailleurs, lors d'un débat houleux à la Commission sénatoriale des affaires étrangères, son président, le républicain Bob Corker, a vigoureusement demandé que le Congrès puisse voter sur tout accord entre Téhéran et le groupe P5+1. Son homologue démocrate, Bob Menendez, a lui répété son soutien à un projet bipartisan sur de nouvelles sanctions contre l'Iran si aucun accord n'était conclu d'ici au 6 juillet. Pour la Maison-Blanche, une telle menace pourrait amener les Iraniens à boycotter les pourparlers.
Deuxième journée de pourparlers historique entamée hier à La Havane entre les États-Unis et Cuba. La délégation américaine conduite par la sous-secrétaire d'État américaine Roberta Jacobson a fait état d'un dialogue productif. Crise dans l'est de l'Ukraine, des combats de plus en plus violents opposent les séparatistes pro-russes à l'armée régulière. Les ministres des Affaires étrangères allemands, français, russes et ukrainiens étaient réunis mercredi soir à Berlin. Le journal de la Cannes, c'est tout de suite avec Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la Cannes sur VOA Afrique. Le Congo-Brazzaville en tête du groupe A, le Burkina Faso dernier. Petite sensation hier sur la pelouse à Bata. Les Diables Rouges du Congo ont battu le Gabon 1-0. Grâce à un but d'Onyangé juste en début de seconde période, les Congolais remportent une victoire historique puisqu'il faut remonter à la CAN 1974 en Égypte pour retrouver trace d'un succès congolais en Coupe d'Afrique des Nations. Les Gabonais ont tout tenté après cette ouverture du score. Bulot a même touché le poteau, mais les Panthers se sont inclinés. Score final 1-0 pour le Congo. Un peu plus tôt, mercredi, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale ont partagé les points. Ce résultat n'arrange pas les vice-champions d'Afrique qui sont ce matin derniers du groupe A avec un point. Compte rendu de ce match des étalons du Faso avec Salif Kabore sur place à Bata pour VOA Afrique.
C'est une équipe burkinabé incapable de faire la petite différence face aux alangues nationales de la Guinée équatoriale que l'entraîneur Paul Put a présenté hier au stade de Bata. Un membre de la Fédération burkinabé de football ayant requis l'anonyme.
On a plein de regrets, plein de regrets, il faut se le dire. Notre équipe physiquement n'est pas au point. Nos leaders ne sont pas dans le coup, il faut se dire la vérité. Donc vraiment, c'est pas, je suis un croyant, donc je crois à Dieu. Sinon vraiment, c'est limite, il faut se dire la vérité. Nos enfants sont émoussés, les leaders ne répondent pas.
Les Équateurs guinéens n'étaient cependant pas une foudre de guerre, mais l'attaque burkinabé, tout comme au premier match contre le Gabon, n'a pas été réaliste. Actuellement, dernier du groupe A avec un point, les Burkinabés semblent être au bord de l'élimination au premier tour de la CAN 2015. Bata, Salif Kabore, la voix de la mer.
La dernière journée dans ce groupe A s'annonce donc explosive avec Congo, Burkina et Gabon, Guinée équatoriale. Une situation qu'analyse Jules Valentin Gué pour son coup de sifflet.
Le retour gagnant du Congo de Claude Leroy, après son intelligente victoire tactique essentiellement construite en deuxième mi-temps contre le Gabon, jette la bouteille à l'encre dans le groupe A, qui s'apparente de plus en plus à un mini-tournoi de la CEMAC, que seul un sursaut d'orgueil de moins en moins probable du Burkina Faso peut interrompre. Cette situation a pour avantage de rendre encore plus passionnant le dernier débris local entre le Gabon et la Guinée équatoriale en troisième journée. Sur le plan sportif, cette rencontre qui, sur le papier, devrait tourner à l'avantage du Gabon, a comme tous les derbys des chances d'être plus disputée. La Guinée équatoriale, le pays organisateur, ayant l'occasion inespérée de jouer le match de sa vie, étant donné les enjeux directs et l'identité de l'adversaire. C'est donc un troisième match décisif à l'allure de rendez-vous à Hockey Coral qui se profile à l'horizon. Les quatre jours qui nous séparent de ce duel seront longs. En attendant, soufflons ce soir avec les rencontres du groupe B. À bientôt.
Ce jeudi, retour à la compétition des équipes du groupe B. Tenue en échec par le Cap-Vert un partout lors du premier match, la Tunisie doit se ressaisir contre la Zambie. Écoutons Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie.
On veut gagner ce match, mais comme on a voudrait faire le premier match aussi. Ce sont des matchs qui dépendent, ils tombent parfois à gauche ou à droite. Parfois la chance, vous avez été quelques occasions. Nous autres, on a un but annulé, un pénalty contre nous. Mais ça, c'est la vie, tu dois accepter. Et maintenant, le Zambie, on sait la force de Zambie. Ils jouent déjà quelques années ensemble. Deuxièmement, ils ont la vitesse. Troisièmement, ils sont très malins.
Autre rencontre à suivre, les Léopards de la RDC face aux Requins Bleus du Cap-Vert. Le point sur ce match avec Thierry Kambundi sur place à Ebebiyin.
Face au Cap-Vert, ce jeudi 22 janvier, la République démocratique du Congo veut absolument l'emporter. Dieu merci Mbokani Bezoa et attaquant des Léopards de la RDC.
Ça se passe très bien, probablement. On est ensemble à tous les groupes. On travaille bien, j'espère demain on va gagner.
Sorti au premier tour en 2013 en Afrique du Sud, les Congolais tiennent cette fois à aller le plus loin possible dans cette CAN. Youssouf Moulumbu est le capitaine de l'équipe nationale de la RDC.
On a envie d'aller loin, on a vraiment envie d'aller loin. Aujourd'hui on a une bonne génération avec les Mbokani, les Joël, Kimwaki, avec des nouveaux comme Bolasie ou Kebanon. On a un effectif complet, donc aujourd'hui on se doit d'amener ce pays là où il doit être. Finale, demi-finale, quart de finale, on va se battre jusqu'au bout.
Côté capverdien, le sélectionneur José Rui Aguias s'est beaucoup attardé sur les qualités de l'équipe de la République démocratique du Congo en conférence de presse.
Parce qu'une équipe forte physiquement et techniquement.
Je crois que c'est une équipe très forte physiquement et techniquement.
T'as une créativité dans l'attaque, t'as un pouvoir dans l'attaque.
Ils ont de créativité dans l'attaque. Notre système pour le match de demain sera le même. Notre façon de jouer sera la même.
Depuis Ebebiyin, Thierry Kambundi Kafuti de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition, ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Les enfants dans le nord du Nigeria ont désespérément besoin de protection, a déclaré Leila Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Comme Boko Haram, les milices d'autodéfense et l'armée les utilisent comme combattants. Nathalie Barge a joint Leila Zerougui, qui revient d'une visite d'une semaine au Nigeria.
J'ai rencontré des enfants, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des hommes qui ont fui leur ville, leur village, leur maison, qui ont laissé derrière eux une partie de la famille, des enfants, des personnes tuées, des personnes enlevées, des biens accaparés ou détruits ou brûlés. Ce n'était pas très beau à voir. J'ai rencontré des gens dans des camps, mais aussi la majorité des gens qui ont fui à Yola où j'étais dans le nord-est du Nigeria. Les gens vivent dans les familles, heureusement, qui a cette solidarité africaine qui permet donc d'absorber la plus grosse partie des populations déplacées. Des conditions difficiles, j'ai été très affectée quand j'ai vu ces enfants, ces femmes qui ont laissé derrière elles, imaginez un peu, des petits-enfants de 1 an, de 2 ans, 3 ans enlevés, 16, 15 ans, 14 ans, parfois le mari tué ou disparu ou resté derrière. J'étais là pendant que les gens arrivaient encore, des familles arrivent avec des enfants malades, des moyens limités pour faire face à cette tragédie, plus de 200 000 réfugiés, rien que dans la zone où j'étais, mais on parle de 800, 900 000 entre réfugiés et déplacés.
Alors, en ce qui concerne le ministre de la Justice et notamment le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes d'autodéfense affiliés au gouvernement dans 3 États du Nord-Est, est-ce qu'ils vont faire quelque chose ?
Absolument, je crois que j'ai été agréablement surprise. J'appréhendais un peu avec les élections, avec la tension qui existe, que peut-être j'aurais du mal à engager des discussions. En réalité, ils étaient très ouverts. Ils reconnaissaient qu'il y avait des problèmes, qu'il fallait réagir. Le ministre de la Justice m'a annoncé qu'il allait publier, qu'il a appelé un advisory, donc une opinion juridique, pour rappeler à tout le monde, y compris aux militaires, qu'au Nigeria, le recrutement de toute personne de moins de 18 ans est interdit par la loi. Je pense que cette opinion est réellement la bienvenue parce que, comme vous l'avez mentionné, nous avons des informations sur l'utilisation des enfants par les groupes d'autodéfense. J'ai aussi souligné ça aux militaires, qu'il y ait un ordre militaire après la sortie de l'opinion pour que les militaires exécutent l'ordre de leur hiérarchie d'interdire toute association des forces armées avec des groupes d'autodéfense qui recrutent des enfants.
Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, est l'invitée samedi dans le magazine au féminin présenté par Nathalie Barge.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
L'ONG Global Witness rappelle que le commerce illégal de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo se poursuit en dépit des efforts pour y mettre fin. Global Witness évoque un nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur ce trafic pour constater qu'en dépit des efforts entrepris par les Émirats Arabes Unis ou l'Ouganda, les ventes illicites d'or en provenance de l'est de la RDC persistent. De surcroît, elles alimentent toujours les groupes armés et contribuent à la corruption au sein des forces gouvernementales. On écoute Nathaniel Dyer de Global Witness.
Global Witness a sorti ce rapport basé sur les enquêtes du groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo qui montre que l'or qui est produit dans les zones contrôlées par les rebelles à l'est du Congo a été vendu sur les marchés internationaux. D'abord en Ouganda et une partie de l'or de l'Ouganda est ensuite revendue aux Émirats Arabes Unis.
Pourquoi est-ce que les Émirats Arabes Unis, notamment Dubaï, ne contrôlent pas mieux ce trafic ?
Nous avons publié un autre rapport l'année dernière qui montrait des lacunes majeures dans la réglementation du secteur minerai au Dubaï. Ce rapport des Nations Unies montre que même maintenant, il est possible de vendre de l'or qui vient du Congo très facilement à Dubaï sans beaucoup de papiers. Donc, il est essentiel que le gouvernement du Dubaï augmente leurs efforts pour assainir cette commerce. Sinon, il y a toujours une possibilité que les marchés internationaux de l'or financent les groupes rebelles au Congo.
Alors, le Congo a quand même fait des efforts pour assainir le secteur de ses minerais. On songe notamment au tantal ou d'autres minerais. Pourquoi est-ce qu'il y a encore cet échec en ce qui concerne l'or?
Il y a des groupes qui ont jugé que certaines mines sont vertes. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous contrôle des groupes armés, mais il reste des grandes insuffisances dans ce système.
Nathaniel, d'ailleurs, au micro de Camille Gros-Didier, les Nations Unies évoquent également, dans leur nouveau rapport remis récemment au Conseil de sécurité, un trafic de coltan passant illicitement de RDC au Rwanda.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
L'année en cours pourrait s'avérer palpitante pour plusieurs économies en Afrique qui s'apprêtent à aller au-delà des industries traditionnelles au profit de nouvelles filières. Johannesburg, considérée comme la capitale économique de l'Afrique, a accueilli une réunion d'experts récemment pour savoir ce que l'an 2015 nous réserve sur le continent. Un avant-goût avec Michel Joseph.
Les économistes sont unanimes. Pratiquement toute la planète bénéficie du continent africain dans son rôle de fournisseur des matières premières, du pétrole aux minéraux, en passant par les produits agricoles. Mais ce scénario peut changer en 2015 et au-delà, au vu par exemple de la chute du prix de pétrole. Une dégringolade qui est à même de contraindre certains pays à diversifier leur offre et les investisseurs à se tourner vers d'autres secteurs. Une nouvelle tendance passée au crible par des experts réunis à Johannesburg en Afrique du Sud. Le changement arrive à en croire l'analyste Martin Davis.
L'économie africaine repose principalement sur les produits de base et sa croissance est liée au prix de ces produits. Nous assistons en ce moment à la baisse rapide du prix du pétrole. Quel sera l'impact de cette situation sur la croissance continentale? Quelles en sont les implications pour les entreprises? L'Afrique va-t-elle alors rééquilibrer sa croissance et se tourner davantage vers la consommation? Cela va-t-il entraîner la création des nouvelles richesses, la valeur ajoutée, au-delà du simple modèle qu'est celui de fournir des matières premières?
Une permutation qui a des avantages. Moins d'inégalités, moins de corruption et un environnement plus propice à l'entrepreneuriat, selon l'expert Gareth Newman.
Il y a une corrélation entre la bonne gouvernance et le décollage des entreprises. Sans stabilité, c'est le contraire qui se produit.
Le changement va aussi être géographique, d'après Martin Davis.
Je pense que les entreprises, les capitaux vont s'éloigner des économies ouest-africaines longtemps dominées par le pétrole, Nigeria, Angola, entre autres, pour bouger vers l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie. Oui, la Tanzanie, un pays à suivre avec son gaz naturel, et le Mozambique aussi.
Si de nombreux consommateurs à travers la planète sont en train de profiter des bas prix du pétrole, les économies africaines, quant à elles, se penchent sur les nouvelles directions à prendre.
Jacques Aristide avec vous, un Washington Forum en deux temps ce jeudi. Du football avec la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2015, et le discours sur l'état de l'Union du président américain Barack Obama. Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Deux semaines après les attaques contre Charlie Hebdo, le gouvernement français a annoncé deux nouvelles mesures contre le terrorisme. Lionel Gaïma.
Parmi les nouvelles mesures figurent le recrutement de près de 2700 agents de sécurité, le déploiement d'un plus grand nombre d'imams dans les prisons et plus d'informations sur le net pour prévenir la radicalisation des jeunes. Le Premier ministre français, Manuel Valls.
La protection des agents sur la voie publique est une priorité. Il s'agit de les doter des gilets pare-balles plus performants, de casques balistiques pour certaines opérations, ou encore d'armements plus performants pour faire face à la présence d'armes de guerre. Le ministère de l'Intérieur subventionnera également l'acquisition par les communes d'équipements de protection et de gilets pare-balles au profit des policiers municipaux qui ont droit à une plus grande protection.
Trois policiers ont été tués durant les attaques ce mois-ci à Paris.
Les unités en charge de la lutte contre le cyber-djihadisme bénéficieront d'équipements plus performants. L'augmentation des missions de vigilance et de surveillance nécessite aussi un renforcement du nombre de véhicules de police et de gendarmerie en 2015.
Ces mesures ont suscité des réactions mitigées. À droite, Sébastien Hugues, porte-parole de l'UMP, tire sur la gauche au pouvoir.
Que de temps perdu. Depuis 3 ans, nous avons fait pas mal de propositions qui ont toutes été rejetées par l'exécutif. Par exemple, au début de la législature, il y avait une proposition de loi à l'arrivée, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur la lutte contre le radicalisme par Internet. La proposition de loi avait été rejetée par l'exécutif.
Marine Le Pen, leader de l'extrême droite, a jugé des nouvelles mesures insuffisantes, estimant qu'elles ne règlent pas le mal à la racine, y compris l'immigration. Sur la question de l'immigration, mardi dernier, le Premier ministre Manuel Valls, né en Espagne et naturalisé français à 20 ans, avait dénoncé un apartheid territorial, social, ethnique. Monsieur Valls était à la cérémonie de naturalisation du Malien Lassana Batili, ce jeune musulman pratiquant, travaillant au supermarché Kacher pendant l'attaque menée par Amedi Koulibaly, un Français d'origine malienne. Lassana Batili a sauvé des vies humaines et a aidé les policiers dans leur assaut final.
Les gens me prennent comme un héros, mais moi je ne suis pas un héros pour moi. Je suis Lassana, je resterai moi-même partout dans le monde entier. Dans ma situation, on sera fait la même chose.
Les nombreux immigrés maliens sur le sol français ont de quoi être fiers. La France est intervenue dans le nord du Mali pour chasser les djihadistes. Maintenant, c'est un Malien qui sauve les Français. Moussa Batili, arrivé en France il y a 20 ans, travaille dans le bâtiment.
Les gestes qu'il a fait, ça fait partie de notre islam. Il faut aider quelqu'un, le protéger, le sauver. L'extrémisme, ce n'est pas la même. Bon, les gens qui se cassent derrière l'islam pour faire n'importe quoi, l'islam ne demande pas ça.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au Burkina Faso, les associations de consommateurs exigent une baisse sensible des prix du carburant.
Réunies au sein de la CCVC, la coalition contre la vie chère, les associations de consommateurs ont donné de la voix pour réclamer la baisse du prix du carburant et la disponibilité du gaz butane. La CCVC n'exclut pas de mener des actions de masse pour la satisfaction de ces revendications.
Au Sénégal, le gouvernement injecte 20 milliards de francs CFA dans la bourse de sécurité familiale.
La bourse de sécurité familiale est une caisse mutuelle pour soutenir les familles déshéritées. C'est l'une des déclinaisons du plan Sénégal émergent, mise en place par le gouvernement pour faire reculer la pauvreté. 1300 familles ont déjà bénéficié de l'aide de la bourse de sécurité familiale et le projet commence à prendre son envol.
Nous sommes en train d'engranger des résultats très positifs en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, sortir les familles pauvres de la précarité, améliorer la sécurité alimentaire des groupes vulnérables.
Docteur Aboubakri Thiam de la Fondation Hélène Keller, partenaire de la Bourse de sécurité familiale au micro de nos confrères de la RTS.
Le patron d'une entreprise de pétrole français prédit la remontée des cours de l'or noir au Forum économique de Davos, qui s'est ouvert hier.
Il s'agit de Patrick Pouyanné, président du groupe pétrolier français Total. Il estime que les prix actuellement bas du pétrole sont, je cite, « simplement un bas de cycle » et que, pour lui, le monde a besoin d'énergie. La grande inconnue, c'est combien de temps va durer ce cycle. Patrick Pouyanné est resté silencieux sur la question.
C'était la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Annette Burton à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guirec au micro. Et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.